Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Anne-Charlotte Fredenucci. Bonjour Anne-Charlotte.
Bonjour Raphaël.
Présidente du groupe Ametra, face à vous, Françoise Benhamou. Bonjour Françoise.
Bonjour Raphaël.
Bon, présidente du Cercle des économistes. Et Patrick Bertrand. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Directeur général des opérations d'Olnest. Alors je le disais, les événements cette nuit, ce sont les États-Unis qui ont mené à l'aube de nouveaux bombardements contre l'Iran. L'Iran qui a annoncé des ripostes contre les bases militaires du Koweït, au Koweït et à Bahreïn, et a promis de prendre pour cible tous les navires s'aventurant dans le détroit d'Ormuz. Finalement, assez peu de réactions ce matin des marchés. Françoise, je commence avec vous, notamment sur le pétrole. Moi, je reste très surpris de ce pétrole qui est sous les 94 dollars en ce moment. On ne franchit plus depuis un moment la barre des 100 dollars, alors qu'un tel conflit pourrait le propulser bien au-delà. Qu'est-ce qui explique cette atonie des marchés?
Et qu'on a été récemment d'ailleurs au-delà, hein, donc bien avant la guerre. Et donc qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a un affaiblissement des déclarations, de la force des déclarations. Pourquoi? Parce qu'on en entend, et puis il se passe des choses qui sont moindres que ce qu'on attendait. Donc il y a sans doute une espèce d'accoutumance.
C'est l'accoutumance à la guerre des marchés, les altercations.
Sauf évidemment explosion généralisée, mais on n'en est pas là. Mais il n'en reste pas moins que Hormuz, pour reprendre une expression que j'ai lue récemment, c'est le cœur battant de la mondialisation énergétique. Hein. Donc, à la fois, il n'y a pas de réaction, enfin ou une réaction relativement faible, mais en même temps, prudence, tout peut arriver. Donc on est dans cet entre-deux, et évidemment, ça n'aide pas les anticipations des entreprises et des États.
Oui, Patrick.
Il y a aussi, en complément, plusieurs éléments. Le premier, c'est que la consommation mondiale est quand même pas au top du top.
Oui.
Dans un paquet de régions, la croissance n'est pas là. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le cours du pétrole avait beaucoup progressé. Et troisième élément, même s'il y a effectivement cette accoutumance ou cet attentisme, on ne voit pas d'attaques majeures, il y en a eu, sur les capacités de production. Et je pense qu'il y a, deux éléments hein, dans cette crise. Il y a la capacité de production,
oui.
Et puis il y a la capacité d'exportation, d'exportation et de diffusion, etc.
La diffusion, hein, même si
on abat complètement les capacités de production, plus on bloque le détroit d'Ormuz, et que, by the way, mais on n'imagine pas que la croissance puisse redémarrer dans ce contexte-là, là, il y aura probablement un gros problème.
Oui, la croissance ne part pas, mais l'inflation, elle, augmente quand même. Alors,
oui,
un grand débat d'ailleurs,
hein.
Est-ce qu'on est en phase d'inflation ou est-ce que c'est un choc de prix? C'est un débat qui divise
quelle est l'inflation sous-jacente,
Françoise. Oui, ouais. Anne-Charlotte,
un commentaire sur le détroit d'Ormuz.
Oui.
Certes, la question du prix du pétrole se pose, mais la véritable problématique, me semble-t-il, pour les entreprises, c'est que c'est une crise sur d'autres crises et que ça amène de l'instabilité, de la volatilité, de l'insécurité. Je vous donne un exemple. Chez Ametra, nous concevons des systèmes mécaniques, électriques, électroniques pour nos clients, mais nous fabriquons aussi des PC industriels et des bancs de test. Eh bien, avant la crise, il y a 3 ou 4 mois, quand nous demandions à un fournisseur asiatique un prix d'un composant, il était valable 1 ou 2 mois. Aujourd'hui, lorsque nous ouvrons notre PC le matin et que nous consultons le devis d'un fournisseur asiatique, il faut, avant la fin de la journée en Asie, c'est-à-dire dans 4 ou 5 heures, valider le devis. Ça crée évidemment une grande, grande difficulté à créer du stock pour pouvoir livrer nos clients, etc. Et cette incertitude, cette insécurité est terrible pour le business.
Mais vous êtes des sportifs, vous devenez des sportifs de haut niveau, quoi, s'adapter à la permanence en permanence, Françoise.
Il est vrai que la crise porte particulièrement sur les économies asiatiques.
Oui.
Elles sont plus dépendantes que les nôtres,
oui.
Exclusivement de l'énergie qui
sur le pétrole et le gaz qui passent notamment là-bas.
Hein.
Oui, oui,
voilà,
c'est 80% effectivement. Et si le pétrole ne manque pas tant, c'est que la Chine aussi a sensiblement réduit, parce qu'elle a beaucoup stocké,
oui.
Effectivement.
Oui.
Donc, c'est plutôt compliqué pour les entreprises qui font du business avec l'Asie, hein, si je comprends bien, beaucoup plus que la zone occidentale.
Dès qu'on touche à l'électronique, et c'est notre cas chez Ametra, on a une instabilité, une insécurité des prix qui est terrible pour les entreprises.
Bon, il y a une période très compliquée qui va être à gérer là pour les banques centrales. Je le disais, la BCE se réunit en ce moment même. On attend une hausse hein, d'un quart de point des taux directeurs, puisque on a ces prix qui augmentent, Françoise, mais on a aussi une croissance qui ralentit en ce moment.
Exactement, c'est toujours le paradoxe, hein, c'est-à-dire que effectivement, on va être à plus de 3% d'inflation, donc on est au-dessus de la norme qui est celle de la
cible.
BCE, la cible, 2%. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les taux vont augmenter. Mais c'est dans un moment où, justement, la croissance est faible et même négative en France, hein, 2 trimestres de suite. Donc, il y a une grande inquiétude sur cet effet qui pourrait, de ce fait, faire que la croissance soit de nouveau négative. Et là, on entrerait en récession. Alors, on n'en est pas tout à fait là, mais c'est vrai qu'il y a une grande inquiétude dans toute l'économie et avec des effets. Les effets sont très importants aussi sur le plan, je dirais, du moral des entreprises et de celui des consommateurs.
Résilientes quand même, hein, parce qu'elles sont en permacrise et les chefs d'entreprise continuent à se battre pour la croissance. Mais est-ce que la BCE menace cette croissance, Patrick?
Un point d'interrogation, d'ailleurs, on peut se poser même la question de savoir si on pourrait pas, enfin, si on ne rentrerait pas potentiellement dans une zone de stagflation, c'est-à-dire qu'on ait l'inflation et la stagnation en même temps, qui est un sujet un petit peu différent pour la Federal Reserve Board, parce que la croissance aux États-Unis est plus importante, donc, votre management des taux peut être un peu différent. Donc la marge de manœuvre pour la BCE est rude, difficile et de plus en plus complexe pour les entreprises. Vous l'évoquiez tout à l'heure en parlant de volatilité des prix. On est aujourd'hui dans un contexte où, une fois de plus, on va être confronté non seulement au sujet géopolitique, mais aussi à la volatilité au niveau des taux. Et on sait que le financement... Et en sous-jacent du financement et des taux, la confiance, non pas l'optimisme, mais la confiance ou la prévisibilité devient un facteur majeur de contrainte pour les dirigeants d'entreprise.
Vous anticipez un peu ma question, je vais vous poser une question très bête, mais vous y répondez déjà à moitié.
C'est les réponses.
Est-ce que le chef d'entreprise regarde l'évolution des taux directeurs de la BCE? Est-ce que ça impacte votre business? On pourrait penser que c'est finalement très loin de votre quotidien.
Il regarde le coût du crédit.
Un quart de point, un quart de moins. Alors, Anne-Charlotte Fredenucci.
C'est une bonne question, mais si le chef d'entreprise ne regarde pas le taux de la BCE, chez Ametra, le jour où on appelle notre banquier pour dire on a besoin de faire plusieurs millions d'investissements dans notre système d'information, le banquier va nous répondre, ah ben oui, mais la BCE a augmenté ses taux, donc ça va coûter à Ametra tant en plus sur votre compte de résultat. Donc, qu'on regarde ou non, ne vous inquiétez pas, les entreprises sont rattrapées par les taux de la BCE.
Par les services financiers, évidemment, mais est-ce que ça veut dire que si vous entendez Christine Lagarde tout à l'heure annoncer une hausse d'un quart de point, ça va modifier vos investissements à venir dans les 6, 12, 18, 24 mois à venir?
Chez Ametra, on a la chance d'être dans des secteurs d'activité, défense, aéronautique, nucléaire, qui sont en forte croissance.
Secteur plutôt
mais
porteur.
Si on prend, si on met à part le cas d'Ametra et que je vous réponds avec une casquette chef d'entreprise un peu plus neutre, la réponse est oui, nécessairement, parce qu'on sait très bien, en tant que chef d'entreprise, tout ce que l'augmentation des taux de la BCE a comme impact en termes de confiance sur l'investissement, confiance des ménages, etc. etc.
Et un secteur, un secteur qui en pâtit énormément, évidemment, de la question des taux, c'est l'immobilier.
Oui,
et ça c'est essentiel.
Un secteur qui est déjà pas très en forme.
Bien sûr. Mais pardon,
Patrick.
Oui, sur le sujet, on a l'effet immédiat de contact avec les banquiers. Donc ça c'est clair. Alors qui est un peu différent lorsqu'on est entreprise excédentaire en trésorerie, puisque là il y a le sujet du placement.
C'est le gros sujet de la trésorerie, évidemment.
Mais sur le fond, vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure. Sur le fond, on sait que c'est un effet immédiat sur les coûts d'approvisionnement, parce qu'il y a des sujets de taux de change qui sont impactés par l'évolution des taux en fonction des différentes zones. Donc même quand on fait un budget en début d'année et que sans être vraiment exportateur, mais que on se fournit et on s'approvisionne à l'étranger, dans le budget vous devez intégrer votre parité pour être à peu près sûr que vous allez arriver à la fin de l'année positif. Et naturellement, les taux directeurs ont un impact évident sur les parités des monnaies.
En Europe et peut-être aux États-Unis. Aux États-Unis où l'inflation est au plus haut depuis 3 ans, Françoise, et on attend la semaine prochaine la première décision de Kevin Warsh à la tête de la Fed.
Exactement.
Ça va être compliqué pour lui.
Et on a la guerre Trump, si je puis dire, contre la Fed. Donc ce sera compliqué.
Enfin, Trump qui vient de dire qu'il adorait l'inflation tout d'un coup. Ça, c'était hier.
Ça, j'ai pas entendu.
Mais qui promet qu'elle va retomber très très vite. Vrai sujet politique.
C'est un sujet politique, c'est un sujet
États-Unis.
Économique et c'est un sujet mondial.
Bon, on attend d'ici, 2h, 2h30, la décision de la BCE, très probable augmentation de 0,25 points de PIB. Bon, avec une croissance qui s'annonce compliquée, les prochains mois le seront probablement aussi. Allez, je voulais qu'on parle du salon Eurosatory ensemble, le plus grand salon mondial de l'armement terrestre, qui ouvre ses portes lundi à Villepinte. Il se tiendra du 15 au 19 juin. Il est placé cette année sous le signe, évidemment, des nouveaux rapports de force mondiaux. L'événement s'articulera autour d'une ambition claire, nous dit le ministère des Armées, se préparer, s'engager et vaincre en coalition aéroterrestre. Vous êtes, vous faites partie de la base industrielle technologie et défense, Anne-Charlotte Freducci. À quoi il faut s'attendre dans cette édition ? C'est une édition forcément particulière.
Alors, ça sera une édition forcément particulière. Ametra expose au salon, donc nous allons être acteurs et spectateurs au premier plan de ce salon. Ça sera une édition particulière parce que c'est une édition de tous les records en termes d'exposants, en termes de visiteurs, en termes de délégations, ce qui démontre un intérêt fort du politique pour le sujet de l'économie de défense, de la défense en général. Et ça démontre aussi un intérêt de nombreux pays étrangers pour les systèmes qui seront exposés à Eurosatory, qui sont notamment des systèmes français et européens. Ça sera une édition particulière aussi, parce que nous aurons 80 exposants ukrainiens.
Eh oui, ils étaient 10 il y a quelques années encore. On a multiplié par 8 le nombre de représentants ukrainiens à Eurosatory.
Absolument. Et donc, ça pose une question politique, nous l'évoquions tout à l'heure. Quelle sera demain, au lendemain du conflit, la place de l'Ukraine dans l'Europe de la défense ? Est-ce que c'est l'Ukraine qui a besoin de l'Europe pour se reconstruire au lendemain du conflit ? Est-ce que c'est l'Europe qui aura besoin de l'Ukraine, qui sera la première armée européenne, tant en termes de soldats entraînés au combat qu'en termes de systèmes développés de manière ultra rapide, de manière très économique et de manière adaptée au conflit d'aujourd'hui ? C'est une question et je pense que Eurosatory nous apportera un élément de réponse et Ametra est impatient de participer à la conclusion de d'accords éventuels avec ces sociétés présentes.
Je vous disais 80 sociétés ukrainiennes contre 10. C'était en 2024. En deux ans, on va passer de 10 à 80 sociétés ukrainiennes présentes. Une autre question pour vous, Anne-Charlotte. La Direction Générale de l'Armement, qui est le grand donneur d'ordre en France, a promis, il y a déjà 12 à 18 mois, qu'il allait donner de la visibilité aux entreprises de la BITD, de la base industrielle de technologie et de défense en France. On a l'impression que ça tarde à venir, cet allongement des commandes, cette visibilité pour les entreprises de l'armement en France, qui, je le rappelle, sont majoritairement des PME. Hein. C'est pas forcément des grands groupes.
Absolument. Chez Ametra, on est 450, on est une grosse PME, une petite ETI, comme vous voulez. Et je vous confirme que la visibilité des commandes tarde à venir. La loi de programmation militaire n'est sans doute pas à la hauteur des ambitions en matière de défense que nous nous donnons.
Ah oui, pourtant elle a beaucoup augmenté, cette loi de programmation militaire.
Oui. Oui, mais nos ambitions ont augmenté très fortement également, puisque nous constatons, nous, constatons que le conflit est maintenant aux portes de l'Europe et qu'il est nécessaire, certainement, pour protéger nos valeurs, nos frontières, d'augmenter encore davantage ce budget.
François oui, je voudrais rebondir sur ce que vous dites qui est très important. Alors, d'une part, sur l'Ukraine, hein, c'est vrai qu'il y a des compétences, elle a acquis des compétences incroyables, notamment pour les drones, et ça nous pose la question, je n'en suis pas spécialiste, je parle sous votre contrôle, mais de quelle est la bonne répartition en matière d'armement, quels sont les armements de demain ? Et est-ce qu'on ne fait pas d'erreur là-dessus ? C'est très difficile d'anticiper. Mais l'Ukraine nous a montré qu'il y a des changements qui sont fondamentaux. Puis le deuxième point sur la loi de programmation militaire, je regardais la part des dépenses militaires en proportion du PIB. En France, entre 1950 et 2021, on est passé de 7,57% du PIB à 2,02. Et là, on remonte lentement à 2,5 et avec des projections qui sont un peu plus élevées. Mais on voit que c'est lent, la remontée, dans un contexte géopolitique qui est quand même extrêmement menaçant.
Bon, ce qui pose la question des moyens financiers.
Exactement.
Et l'état de nos finances publiques. Hein,
voilà, mais il y a des choix très forts là, qui sont sans doute à faire et qui posent la question du politique.
On parle beaucoup de la justice en ce moment aussi, hein, des moyens alloués à la justice, qui pourtant est un ministère dont les crédits ont beaucoup augmenté, mais on voit qu'on n'est pas au rendez-vous des besoins.
Hein, j'ajoute un point sur les dépenses militaires qui est très important, c'est l'effet sur l'innovation. Oui. Qui n'est pas du tout négligeable. Oui. Hein, il y a des papiers académiques là-dessus qui sont très intéressants, et notamment du CEPR, de Philippe Aguillon et d'autres, et qui montrent à quel point l'innovation dans le domaine de la défense peut avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie. Ça aussi, c'est important. Rappelons-nous le GPS, l'Internet, leur origine est militaire.
C'est la base de la DARPA aux États-Unis, hein, qui sert de l'innovation. Patrick, vous souhaitiez réagir.
Le fond aussi des choses, il y a l'outil, les armements, quel type d'armement, mais pour quelle vision stratégique. Et l'échec de l'avion du futur, qui a été annoncé, et dont on parle beaucoup
le
dans
SCAF,
la presse,
oui.
est vraiment très significatif à cet égard. C'est-à-dire que comment, dans un contexte où des pays ont des approches différentes, par exemple la France a l'approche dissuasion nucléaire que l'on connaît, l'approche capacité de déploiement de forces armées à l'extérieur de façon autonome, l'Allemagne beaucoup plus dans une logique de défense du territoire, et ça fait un avion totalement hybride, parce que il faut un avion qui puisse atterrir sur les porte-avions, transporter les bombes nucléaires, mais de l'autre côté être à l'appui de troupes au sol, etc. Donc le sujet des outils est extrêmement intéressant, et notamment cette émergence de ce qu'on appelle la guerre hybride et la remarquable réactivité, réaction et compétence de l'Ukraine. Mais au passage, on repose de nouveau le sujet d'une stratégie au niveau européen. Et on restera en retard tant qu'on n'aura pas une stratégie commune. Aux États-Unis, il y a un client, l'armée, il y a une stratégie, il y a un territoire.
Oui.
Là, on a des stratégies de nature
nationale.
Politique différentes.
Et, oui.
Et donc, du coup, on augmente les coûts, parce que le coût de l'avion du futur était augmenté de cette accumulation de réponses
c'est à 100 milliards, besoins hein,
différents
je le rappelle, hein.
Ouais. Émis par les différents pays. Donc, il y a un sujet fondamental de gouvernance et de stratégie. On en revient, on l'a beaucoup évoqué sur ce plateau, la cohérence de la stratégie européenne. Quand est-ce qu'on se mettra à peu près d'accord, et à partir de là, enfin c'est comme si dans une entreprise avec 8 ou 10 filiales, on décide de lancer un nouveau produit, et la filiale X vous dit oui, mais le produit il faut qu'il soit de telle façon, la filiale Y vous explique que son client non, et donc vous faites un produit qui est plus un bon produit parce que vous faites une espèce de quelque chose de totalement hétérogène et qui répond plus directement aux besoins.
Ou un produit qui ne sort pas tout simplement.
Ou un produit qui n'est pas acheté parce que finalement il n'est pas bon. Comme il a voulu, c'est un peu un nivellement par le bas, comme il a voulu répondre à tous les besoins, il n'est plus performant pour le besoin X exprimé.
Quelle leçon vous tirez de l'échec du SCAF, Anne-Charlotte Renucci?
Ce qui est sûr, c'est que on est parti avec une belle idée en tête. Il y avait une volonté politique qui a été exprimée entre la France et l'Allemagne, mais finalement, cette volonté politique ne s'appuyait pas sur un cahier des charges industriel cohérent. Il est vrai qu'en France, nous avons un porte-avions, nous avons une arme de dissuasion nucléaire à faire porter par nos avions. Ce n'est pas le cas des Allemands. Et dans cette volonté politique, on a, me semble-t-il, un peu oublié d'associer les industriels dès l'origine. Or, s'il n'y a pas de cohésion entre les industriels, de coopération entre les industriels, et s'il n'y a pas d'alignement des besoins des forces armées, il n'y a pas de coopération possible.
Alors, il y a aussi sur ce sujet, mais attention, parce que on n'est pas dans le cœur des négociations et de tout ce qui s'est passé. Mais nous avons aussi une vraie question, c'est que la France est très très en avance sur l'aspect technologique, donc il y a une notion de propriété intellectuelle.
Oui.
Et l'Allemagne a une capacité industrielle tout à fait remarquable. Mais entre la propriété intellectuelle et la capacité industrielle. Et deuxième élément, on se retrouve dans un schéma où nos partenaires allemands disent « Mais comme on finance, on devrait avoir droit à l'accès à la propriété intellectuelle. » C'est comme si un fonds d'investissement dans une entreprise vous expliquait que on va bâtir quelque chose ensemble, mais comme je te finance, la propriété intellectuelle, il faut aussi que je l'ai.
Oui.
Non, ça ne marche pas comme ça.
Dassault étant le seul à avoir ce logiciel de stabilisation des avions de chasse avec un acteur américain dont j'ai oublié le nom, mais qui ne voulait pas le transférer, effectivement.
On en revient aux intérêts qui ne sont pas des intérêts communs.
C'est vrai que la volonté politique, comme vous l'avez dit, madame, ne suffit pas, mais en plus, elle a plus ou moins disparu. Et donc, c'est un sujet. Alors, on cherche d'ailleurs d'autres partenaires, des partenaires européens de substitution. Je pense aux tractations avec ça, par exemple. Donc, c'est pas fermé l'Europe de la défense, mais on voit bien que ce sont des partenariats un à un, et on n'a pas une logique de défense européenne pour l'instant, et on en est très loin, malheureusement.
Vous pourriez faire, vous, des opérations chez Ametra de croissance externe européenne?
Oui, évidemment. Ametra est allé s'implanter en Tunisie et en Inde pour accompagner ses clients. Alors, lorsque nous avions des usines que nous avons cédées l'année dernière pour faire un recentrage stratégique sur les activités de bureaux d'études, mais nous regardons aujourd'hui une implantation en Belgique parce que nos clients de la défense en ont besoin, voire une implantation en Allemagne. Donc oui, évidemment, nous irons là où les clients d'Ametra nous entraînent.
Ce que je vous entends là, c'est que cette consolidation européenne, elle doit se faire par l'industrie et par les acteurs de l'entreprise avant de lancer par le politique, en réalité.
En parallèle, à mon avis, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut une volonté politique et il faut des coopérations industrielles qui aient du sens, qui créent de la valeur et qui répondent à l'expression de besoins politiques.
La Suède nous a acheté 4 frégates récemment. Hein, donc, on voit qu'il y a des choses qui peuvent arriver et qui peuvent se passer. C'est vrai que la volonté politique est indispensable, mais ça doit se négocier en même temps, l'industrie et le politique.
Oui. Et le politique, et qui doit aussi mettre les voies et moyens, les conditions de l'essor d'une industrie européenne. Faciliter un peu le travail, on en parlera dans la seconde partie de l'émission. Juste avant la coupure pub, je voulais qu'on touche un mot. Tous ces sujets, on va en parler aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Françoise.
Bien entendu, premier week-end de juillet, comme chaque année.
Rappelez-nous les dates.
Énormément de monde, les 2 et 3 juillet, il y aura notamment, il y aura 3 grandes thématiques qui vont ressortir. Celle de la jeunesse, essentielle. La géopolitique, bien entendu, avec toutes les questions qui se posent, les reconfigurations Nord-Sud notamment, et puis le troisième élément, est-ce qu'on peut encore parler de progrès et comment et en quels termes? Et donc ce seront les 3 thématiques centrales.
À un moment particulier qui est le lancement de la présidentielle aussi, j'imagine qu'on aura beaucoup d'acteurs politiques qui vont venir.
Évidemment, on aura beaucoup d'acteurs politiques, on a beaucoup d'acteurs étrangers qui pourront nous éclairer aussi, des ministres, des gouverneurs de banques centrales, etc. Vraiment, on a de très belles rencontres qui se préparent.
Bon, eh bien, rendez-vous les 2 et 3 juillet à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques. Disponible, évidemment...
sur Internet.
Sur Internet, pour ceux qui n'auront pas la chance de s'y déplacer. BFM Business y sera, bien sûr, dès la matinale. Les experts, 2 émissions spéciales en direct d'Aix-en-Provence, avec plein de beau monde sur le plateau. Ne ratez pas cet événement, bien sûr, qui clôture l'année économique en général. Et prépare la suivante, absolument, qui s'annonce absolument passionnante. Allez, ne quittez pas, on va revenir sur des questions un peu moins militaires en deuxième partie. On va revenir notamment sur ce rapport de la Cour des comptes qui s'est penché sur la prime d'activité, une prime d'activité qui coûte plus de 10 milliards et qui, estime la Cour, aurait des effets sur l'emploi qui ne sont pas démontrés. On va décortiquer ça ensemble. Et puis, on reviendra sur la présentation par Bruxelles. On parlait de cette consolidation européenne. Bruxelles qui essaie de simplifier la vie des entreprises. Un nouveau paquet omnibus a été présenté par la Commission. On verra ce qu'il recouvre. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.